Bien, bonjour à tous, vous m'entendez, c'est bon. Donc je suis Laurent Claude, voici Mathieu Azon, et nous venons donc vous présenter une approche de l'email accessible par le biais de ce projet donc, qui s'appelle Mail to Voice. Voici donc comment va se dérouler cette présentation. Donc bien sûr une présentation générale du logiciel. Nous explorons ensuite les concepts d'accessibilité que nous avons retenus pour répondre donc à ces besoins que je vais vous développer. Donc ensuite nous ferons un point sur le statut du projet qui a son histoire et son avenir. Bien sûr une démonstration du logiciel dans l'état où il est aujourd'hui. Ensuite je passerai la parole à Mathieu qui nous donnera son point de vue un petit peu plus développeur pour nous faire un retour d'expérience, vous parler d'accessibilité en général. Bien, qu'est-ce que Mail to Voice ? Mail to Voice, c'est donc une solution qui permet de donner, qui se veut de donner l'autonomie à l'usage du mail à des personnes en situation d'illettrisme. Comment envoyer et recevoir un mail quand on ne sait pas lire ou écrire ? Qui veut aussi donner cette solution à des personnes en situation de handicap moteur ou cognitif ? Et pourquoi pas aussi à des personnes du troisième âge qui seraient peut-être pas très à l'aise avec l'informatique. Mail to Voice s'insère dans un contexte déjà existant, bien entendu, avec d'un côté la solution 10-bit voicemail qui est un tout petit programme qui va être un dictaphone qui va joindre votre message à votre message vocal en pièce jointe à un logiciel de mail que vous avez déjà, tel que Outlook Express, Thunderbird, etc. Donc, très légère solution. Et de l'autre côté, des suites qui sont Qualimail et Ordissimo, donc qui sont là des solutions beaucoup plus lourdes et à des prix assez conséquents en général. Ce qui m'amène à vous parler de la licence de distribution de Mail to Voice, qui donc, est sous licence libre. Logiciel libre, ouvert et distribué gratuitement. Alors pour répondre aux besoins d'illettrisme, la solution mise en place est retenue et est simple, c'est quand on reçoit un message, on va donc demander à Mail to Voice de déclencher une synthèse vocale pour que la lecture de ce message se fasse par l'ordinateur. À l'inverse, quand je vais envoyer un message, si je ne sais pas écrire, eh bien je vais le dire. L'ordinateur Mail-to-Voice va enregistrer donc ce message et le joindre en pièce jointe au mail sortant. Et l'accès et la gestion du carnet d'adresses se fait par photo, puisque nom et prénom ne sont pas des informations pertinentes quand on ne sait pas lire et écrire. Pour les personnes en situation de déficience cognitive, nous avons épurer l'interface graphique, pas de menus et de fonctions polluantes dans tous les sens. On a une interface très simple qui va à l'essentiel. De même, nos icônes se veulent les plus représentatives possibles pour que l'identification de la fonction soit évidente. Et on a un retour vocal qui permet de confirmer à l'utilisateur de la fonction des fonctions principales du logiciel. On verra ça tout à l'heure dans la démo. Pour les personnes en situation de handicap moteur, nous avons proscrit totalement les clics compliqués, qui sont clic maintenu, double clic, clic droit. Et donc on fait une utilisation exclusive du clic simple. Et nous avons choisi donc des boutons de grande taille pour permettre à des personnes qui n'utilisent pas une souris ordinaire, peut-être d'utiliser par contre un écran tactile et d'agir avec le doigt, par exemple. Voilà. Mail to Voice, c'est un projet qui existe depuis 2011, enfin en tout cas en 2011, une première version est sortie. Il y a eu une pause dans le développement pendant un certain temps. L'année dernière, en 2013, donc Mathieu a rejoint le projet pour reprendre le développement là où il en était. Et aujourd'hui, en tout cas en septembre, nous avons déjà sorti une première bêta de notre future version qui intègre les fonctionnalités déjà de base, qui sont donc la mise en œuvre de la synthèse vocale, l'enregistrement audio du message sortant, la gestion du carnet d'adresses par photo, la gestion des pièces jointes. On arrive maintenant à afficher les mails graphiques d'une façon assez correcte. On gère, ou dans la prochaine bêta qui va arriver là, très prochainement, on gérera correctement les liens HTTP ou mail. Et nous avons amélioré l'ergonomie, notamment pour une partie technique qu'on verra tout à l'heure. Et puis simplifier un petit peu les données de contact. Voilà, parce qu'auparavant on avait un petit peu trop d'informations. Les projections, c'est de rajouter des nouvelles fonctionnalités, de stabiliser l'existant. Donc une fonctionnalité qui nous est chère, ce serait donc de pouvoir importer et exporter les carnets d'adresses pour pouvoir donc s'ouvrir. D'avoir une mise à jour qui soit transparente par rapport à la version de 2011 et donc proposer une version, notre future version stable qui permettra une migration de façon transparente. Nous aimerions aussi, enfin nous allons mettre en place la surveillance du mot en cours de lecture par la synthèse vocale pour pouvoir en suivre la lecture d'une façon visuelle. Et nous souhaitons aussi pouvoir packager Mail2Voice avec une voix et un moteur de synthèse vocale libre. Voilà, d'un côté plus technique, on veut aussi se débarrasser des librairies privatrices pour ne fonctionner qu'à partir de librairies libres aussi, notamment les codecs. Et ben voilà. Passons donc à la démo. Bien. Donc là, nous voyons donc l'écran principal, qui est, l'écran principal, en tout cas la boîte de réception. Vous distinguez en haut la barre de menu des fonctions principales, donc avec la réception, l'envoi, la gestion de la corbeille, du carnet d'adresses, principalement. Voilà, donc dans la boîte de réception, vous avez sur la partie de gauche la liste de tous les messages reçus, avec donc le premier, là, qui est j'enlève la surbrillance là pour qu'on voit son affichage, donc qui est en gras et puis avec la petite enveloppe en vert pour donc distinguer que c'est un message qu'on n'a pas encore lu, qui vient d'arriver. Nous allons en prendre connaissance. Alors là, je suis désolé, sur la partie de droite, vu la résolution du vidéoprojecteur, on a un écrasement des informations. C'est aussi une fonction d'ergonomie qui est en cours de travail chez nous. On connaît ce problème. Et donc, pour déclencher la lecture de ce message, dont j'ai quand même toutes les informations d'une façon visuelle, qui est mon correspondant, son nom, la date et le contenu du message, je vais donc, pour en prendre connaissance d'une façon vocale, cliquez sur le bouton écouter.
Le 15 novembre 2014 à 15h30. Titre: Bienvenue au Capitole du Libre. Message: Bonjour, bienvenue à la présentation de Mail2Voice. Laurent: Fin du message, cet email ne contient pas de pièces jointes.
Voilà. La voix de synthèse utilisée, c'est Embrolla, c'est donc une voix de synthèse libre. Mais Mail2Voice permet de fonctionner avec tout type de voix de synthèse SAPI, SAPI 4, SAPI 5. Donc il y en a des versions commerciales qui sont de bien meilleure qualité. En tout cas, voilà, on est dans un salon logiciel libre. C'est un logiciel libre, donc Embrolla. Voilà, directement ici, je peux supprimer le message ou lancer une réponse. Eh ben, allons voir donc dans la réponse. Si je réponds, je reprends mon correspondant, bien entendu. J'ai un message textuel qui est pré-rempli par défaut, il est personnalisable. Et pour donc envoyer mon message à la personne, je vais appuyer sur le bouton micro, à enregistrer. Normalement, ça marche. C'est l'effet démo, hein. Bien, donc on va faire comme si ça marchait. Normalement, donc l'enregistreur se met en route, là, la durée évolue. Je sens mal. Hein. Et j'ai plus qu'à annoncer ce que j'ai à dire à mon correspondant. C'est bien. C'était le moment. Je sens le plantage. Bien, les développeurs ont du travail. C'est reparti. Parfait. C'est l'ordinateur, donc. Ah, il est vieux. Donc là, je dicte mon message. Et une fois que c'est fait, j'arrête. Je peux le réécouter. Alors, je ne vais pas vous le faire parce que j'ai dit n'importe quoi. Je peux joindre des documents. Et une fois que c'est fait, bah, j'envoie. Raté, c'est pas grave. Donc envoi avec une confirmation terminé. Vocale sonore de la réussite ou l'échec de l'envoi du message. Voilà. On voit donc sur cette partie, sur cette fonction d'envoi de message, la partie à droite donc, qui sert à la préparation du message. Et sur la partie de gauche, en fait, c'est la liste de tous mes correspondants dans le carnet d'adresse. Un carnet d'adresse qu'on retrouve donc ici. Donc, je ne sais pas si vous entendez le retour vocal de la fonction que je mets en œuvre. Donc, mon carnet d'adresse, j'ai un contact. Et ça me permet donc de gérer les informations et de les modifier. Donc, image, nom, email. Voilà. Je peux ou non, pour les personnes qui sont en situation de handicap cognitif, gérer la corbeille. Quelqu'un qui va être à l'aise sur la notion d'effacement de message, on va lui laisser la fonction corbeille active. Quelqu'un que ça va perturber, on va pouvoir l'effacer, l'enlever. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas gérée. Hein. Elle n'apparaît pas à l'écran ici. Voilà. Une partie d'aide qui renvoie sur le site. Ben, l'Internet fonctionne. Et voilà, bon, site qui est en prévision de refonte, donc bah, comme ça, vous n'aurez pas d'échantillons. Et pour la partie plus technique, donc réglage, là, qui va peut-être nécessiter une personne aidante pour le paramétrage, on retrouve des informations classiques qui sont bien sûr le nom de la personne, son email, son mot de passe, les paramètres de serveur entrant-sortant. Et ici, donc, je vais pouvoir modifier mon message par défaut. C'est le message qui va être pré-rempli quand on prépare un message à l'expédition. Dans la partie de droite, on a...
Faut que je parle, moi aussi.
D'accord. Eh bien, je fais vite, on va terminer. Donc là, dans la partie de droite, on a la possibilité donc, de gérer la langue du logiciel. Donc aujourd'hui, on l'a fourni en français et en anglais. Ça peut bien entendu s'étendre. Et on va pouvoir gérer donc, la voix de synthèse, sélectionner sa voix de synthèse, vu que Make2Voice va nous proposer celles qui sont installées dans l'ordinateur. Voilà, donc je vais donner la parole à Mathieu pour la suite. De cette présentation.
Merci Laurent pour la démo. Bonjour à tous déjà. Moi j'aimerais revenir un petit peu sur le projet pendant les courtes minutes qui me restent. Vous faire un petit retour d'expérience pour vous montrer que même sur un projet aussi modeste que Mail2Voice, puisqu'en fait, à part Laurent, je suis le seul développeur, et Laurent d'ailleurs n'est pas développeur, il est project leader. Donc chef de projet. Donc pour vous montrer un petit peu que même pour ça, c'est pas forcément simple. Faut bien voir que Mail2Voice, en fait, ça représente pour nous la première expérience dans le domaine de l'accessibilité. Avant ça, on avait juste zéro connaissance. Faut savoir que l'accessibilité, c'est un domaine extrêmement large, qu'il y a des bonnes pratiques en termes de développement, qu'il y a des règles et des normes. On n'avait pas du tout ces connaissances-là. Je reviendrai sur ce sujet. Mais voilà, faut voir qu'on est parti de besoins identifiés par Laurent, puisqu'il est en contact régulier avec des gens en situation d'illettrisme ou d'autres déficiences, comme il l'a expliqué. Et du coup, je crois que je ne suis pas du tout devant la caméra. Du coup, voilà, on est juste parti de ces besoins-là. On a dit, voilà, on peut aider ces gens-là. On peut leur fournir quelque chose. OK, ce n'est pas parfait. OK, ce n'est pas de l'accessibilité au grand sens, dans le sens le plus large possible. Mais on essaie de pallier un problème. Sur le projet, en fait, ce qu'on a travaillé aussi, c'est toute la partie organisation du projet. Je m'explique. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le développeur qui faisait dans son coin, si je ne m'abuse. Évidemment, il y avait des échanges avec Laurent. Au moment où je suis arrivé, j'ai dit à Laurent, bon, on va mettre un certain nombre de choses au point. La première chose au point, c'était de se faire des réunions régulières. Parce que même dans un projet libre, même si vous faites ça de votre côté, qu'a priori, ça ne touche pas forcément un très large public, il vous faut de la rigueur, il vous faut de la méthode. Ça, de toute façon, n'importe quel bon développeur vous le dira, il faut être rigoureux. Donc ça impose des plannings, ça impose des échéances, ça impose des jalons. Du coup, réunion, communication, beaucoup de communication à travers des newsletters, des forums, des réseaux sociaux, simplement pour garder le contact avec la communauté. Parce que les gens, il faut bien qu'ils soient au courant de ce qu'on fait, sinon on travaille tout seul dans notre coin et personne ne sait ce qu'on fait, et donc ça ne sert à rien. Et puis aussi, il faut mettre en place un certain nombre d'outils. Alors, en termes d'outils, on a des choses pour le développement, comme des bug trackers, si vous connaissez évidemment, un wiki pour nous, pour le développement, pour centraliser des connaissances, pour planifier des choses, pour mettre les comptes rendus de réunion, par exemple, pour que ce soit public. Le wiki en lui-même est public, il est plus pour nous, en tant que pour le développement, il est quand même public. Vous pouvez retrouver tous les comptes rendus depuis un certain nombre de temps déjà. Voilà, donc ça, c'était un gros travail sur l'aspect projet, sur l'aspect développement. On a beaucoup travaillé sur la stabilisation du logiciel depuis que je suis arrivé sur le projet, puisque, évidemment, la première version qui est sortie en 2011, c'était un premier jet. Le premier développeur a déjà fait un gros boulot, a bien défriché pas mal de choses. Donc, on a stabilisé tout ça dans un premier temps. On a développé quelques fonctionnalités supplémentaires, mais on va dire que c'est à la marge. Et puis, fort de ça, au bout de plus d'un an et demi en collaboration avec Laurent, on a réussi à mettre en lumière un certain nombre de problèmes, un certain nombre de besoins qui sont sans doute communs à beaucoup d'autres projets, qui sont classiquement avoir un développeur pour un projet, même aussi petit que celui-là, c'est pas suffisant. On a des besoins en termes de traduction. Moi, je parle anglais, français, mais c'est tout. Sauf que Internet, c'est plus vaste que ça. Et puis, en termes de documentation aussi. Moi, j'ai du mal aussi à faire du développement, puis de la documentation, à la fois pour le logiciel et à la fois pour le code. Enfin, évidemment, c'est compliqué. Donc tout ça, à force de travailler, on commence à voir ces aspects-là et essayer de chercher des solutions. Par exemple, pour la traduction, on essaye de chercher du côté des plateformes collaboratives de traduction. Je regarde l'heure parce que c'est pas beaucoup de temps. Et voilà, donc on essaye d'avancer sur ces pistes-là. Tu peux mettre la slide suivante. Merci. D'un point de vue, si on prend un petit peu plus de hauteur et si on regarde d'un point de vue, enfin si on regarde vers l'avenir, disons, il faut voir que pour nous, Mail2Voice, ça s'inscrit dans une démarche de projet social. Puisque les gens qui sont illettrés, qui ont des déficiences cognitives, motrices, ce sont forcément des gens qui sont exclus quelque part. Internet étant assez, enfin le monde numérique disons, étant assez, comment je dirais, c'est tout l'un tout l'autre. Soit vous avez des outils, soit vous les avez pas. Mais du coup, ça peut être un facteur d'exclusion à partir du moment où vous êtes dans l'incapacité de communiquer avec vos proches. Ou même avec, je ne sais pas moi, l'administration ou quoi que ce soit, si vous ne pouvez pas communiquer facilement, vous êtes complètement bloqué chez vous, vous ne pouvez rien faire. Voilà, il faut être clair. Donc on essaye de lutter à travers ce projet-là contre l'exclusion, et ça s'inscrit dans une démarche plus globale sur laquelle je reviendrai juste après. Mais tu vois, c'est aussi pour nous un terrain d'expérimentation, puisque, comme on vous l'a dit, on essaye de trouver des concepts d'ergonomie, d'IHM, pour répondre aux besoins. Là, on vous a montré le logiciel. Ça fait partie d'une première phase et on veut aller beaucoup plus loin que ça. On veut apporter des concepts beaucoup plus intéressants pour pouvoir aider vraiment l'utilisateur. Voilà, on a encore des boutons, je pense qu'on pourrait vraiment faire des choses beaucoup plus intéressantes que ça. Mais comme je vous l'ai dit, stabilisation, tout ça. Et au-delà de ça, voir si Mail2Voice ne peut pas répondre à d'autres problématiques que ce qu'on a évoquées. C'est-à-dire, par exemple, la dyslexie. On est en contact avec des gens qui sont très, très, très actifs dans ces domaines-là, et on s'est rendu compte, justement, au cours de rencontres comme les Capital du Libre ou les RMLL, ou d'événements du type, que, ben, en discutant avec les gens, en fait, on se rend compte qu'il y a des connexions, évidemment, entre les projets. Il y a des choses que peut-être nous, on pourrait apporter. Voilà. Donc, si vous avez des idées, venez nous voir. Si vous pouvez nous aider, venez nous aider. Ce sera très bien. Et voilà, on va finir là-dessus. Faut voir qu'en fait, donc Mail2Voice, c'est de l'accessibilité. L'accessibilité, c'est un domaine extrêmement large. Et comme je vous l'ai dit, l'accessibilité, ça peut être un facteur d'exclusion à partir du moment où on n'a pas d'accessibilité dans le logiciel. Et je crois que le logiciel libre, ayant cette volonté, cette aspect de mission sociale, je dirais, à travers ses libertés et ses communautés, etc., se doit d'être en première ligne au niveau de l'accessibilité. Si vous êtes développeur, et je vous regarde dans les yeux, si vous êtes développeur, posez-vous la question de l'accessibilité, c'est très important. Pour ce faire, justement, pour l'accessibilité, donc, je vous l'ai dit, on a besoin des développeurs, on a besoin des utilisateurs, les utilisateurs, parce que on ne peut pas se rendre compte ce dont les utilisateurs ont besoin sans qu'ils nous le disent. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un handicap spécifique, je ne peux pas savoir ce que ça représente pour lui comme contrainte. Donc je ne peux pas lui répondre à ses besoins. Voilà. Donc on a besoin d'utilisateurs pour qu'ils nous donnent leur feedback. On a besoin des experts et des chercheurs pour nous guider dans nos missions, dans nos travaux. Parce que voilà, les ergonomes, ce sont, par exemple, des gens qui sont capables de trouver des solutions d'ergonomie. Et du coup, nous, on peut après les développer, on peut les implémenter. Et puis, bien sûr, on a besoin des pouvoirs publics pour pouvoir promouvoir les solutions d'accessibilité libre, mais aussi... ils ont besoin de nous pour trouver ces solutions-là. Voilà, donc ça marche un peu dans les deux sens. Et dans ce contexte-là, cette année, en fait, a été officialisée une association qui s'appelle Liberté Zéro, dont nous faisons partie aujourd'hui. Liberté Zéro, il y a un stand dans le hall, je vous invite à aller les voir, parce qu'il y a des gens très intéressants. Puisque notre objectif, c'est de promouvoir l'accessibilité dans les logiciels libres, justement. Donc avec toutes ces dimensions-là, à la fois de sensibilisation, de travail collectif, de mise en commun des savoirs, etc., autour de l'accessibilité. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez tous nos contacts, le site web, les réseaux sociaux, les sources, les wikis, les mailing lists, et le lien vers Liberté Zéro aussi, si vous voulez voir. Voilà, je ne sais pas si on a encore le temps pour des questions. Une question, peut-être.
Alors. Oui.
Vous développez l'aspect social d'un logiciel comme Mail2Voice, mais ce ne serait pas quelque part d'autant plus social d'accompagner la personne qui est en état d'illettrisme avec vraiment une démarche de travailleur social qui va l'aider à non seulement à comprendre à lire ses mails, mais du coup à lui expliquer aussi le fonctionnement et d'un autre côté le fait de donner des outils tels que Mail2Voice. L'informatique, c'est un facteur d'exclusion sociale. La légende du geek qui sort jamais de chez lui avec des lunettes, c'est de l'exclusion sociale aussi.
C'est un outil de compensation. Ce n'est pas la solution contre l'illettrisme, bien entendu. Dans certains cas, l'illettrisme, il faut le combattre et il faut donc faire des apprentissages. Il faut accompagner la personne aux apprentissages de la lecture et de l'écriture. Dans certaines situations, dans certains cas, et moi c'est mon milieu de travail, je travaille avec des personnes qui sont handicapées, le handicap est irrémédiable. Donc on va mettre en place des solutions techniques de compensation. Voilà. Et c'est là que vient répondre Mail2Voice. Une personne qui arrive sur le pays ou qui a raté ses études, non, Mail2Voice, c'est pas forcément pour lui. Peut-être dans un premier temps pour l'aider à accrocher, mais la solution dans son cas, c'est l'apprentissage. Bien entendu.
Merci. D'autres questions ? Je sais pas si je gratte un peu. Oui. Oui.
J'ai vu que la présentation est faite sous Windows. Est-ce que un port est prévu pour des distributions au moins les plus grosses type Ubuntu ?
Ah, une solution technique, je vais te laisser répondre, Mathieu. Ouais. Est-ce que le port sous Linux est prévu ?
Bon, la version sous Windows, en fait, le problème, c'est que c'est de l'historique, évidemment. Le premier développeur avait développé tout ça. C'est du C#, .NET, compagnie, avec des bibliothèques derrière, des DLL qu'on trouve pas sous Linux. Donc voilà, c'est .NET en lui-même est censé être portable. Maintenant, c'est plus compliqué. En fait, il y a une question sous-jacente derrière. C'est que on est en train. Il y a une réflexion de longue haleine derrière, c'est que quand j'ai rejoint le projet, il y avait une question qui était de dire, ok, Mail2Voice c'est bien, pour autant il y a déjà des clients mail qui fonctionnent très bien, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les adapter à nos besoins ? Le choix qu'on a fait, c'est que ouais, le problème c'est qu'il y a déjà des gens qui utilisent Mail2Voice. Si on commence à reprendre un client maintenant, on va casser toute la compatibilité, et ils n'auront rien, et enfin bon, c'est un peu compliqué. Du coup, on a choisi de continuer sur cette version-là. Du coup, on est cantonné à Windows pour l'instant. Pour autant, l'objectif étant de juste finaliser la version qu'on a là, donc corriger les bugs, finir les dernières fonctionnalités. Une fois qu'on aura fait ça, on basculera sur quelque chose de multiplateforme, type Thunderbird ou ce genre de choses. Et là, on aura du multiplateforme. Voilà. C'est l'idée derrière. Voilà, ça prend du temps, faut faire des choix, c'est la vie, c'est comme ça, mais on va y arriver.
Voilà, ben merci à tous.
Merci à vous. On vous laisse pour la conférence d'après.